Vous êtes sur RTL.
8h. RTL Soir, Thomas Soto, bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Actualité chargée, actualité lourde ce soir. Il y a ce féminicide à Mérignac et toutes les questions qui se posent sur les failles qui ont permis à un homme récidiviste de brûler vive sa femme. On en parlera à 18h15 avec la ministre déléguée à l'égalité homme-femme, Elisabeth Moreno. Et puis il y a ce policier de 36 ans, Éric Masson, ce papa de deux jeunes enfants tué de deux balles hier soir à Avignon. À 18h30, c'est le DGP, le directeur général de la police nationale, autrement dit le patron de la police, Frédéric Vaux, qui sera avec nous. Amandine Bégaud, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On découvre avec vous les autres grands titres dans l'actualité de ce jeudi 6 mai.
Et Emmanuel Macron ouvre à tous la vaccination dès la semaine prochaine. Attention tout de même, ce sera sous condition, mode d'emploi dans un instant. Dans ce journal également, ce témoignage troublant au procès de Nordal Lelandais, celui d'un de ses anciens co-détenus. Et puis du foot, et les supporters lensois sont déjà chaud bouillants à la veille du derby contre Lille. C'était à l'entraînement à 24h du match.
Ce qu'il disait l'autre fois, non? C'est le... La météo, Peggy Broche, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Demain, ça va s'améliorer un peu et ça sera pas un mal.
Non, exactement. Alors, en tout cas, sur le nord, c'est vrai, la moitié nord, on va retrouver des éclaircies. Dans le sud, ce sera encore bien chargé.
Vous savez que c'était catastrophique aujourd'hui, quand même, sur Paris, voilà. La région parisienne.
On est bien d'accord. Mais c'est pour ça que je dis que voilà, on va vers l'amélioration. Et entre l'Aquitaine et les frontières de l'Est, ce sera encore bien gris demain avec des pluies, mais beaucoup plus faibles qu'aujourd'hui. Encore de la neige à moyenne altitude sur les massifs de l'Est le matin. Donc attention au risque d'avalanche. Et puis les pluies seront encore plus rares dans l'après-midi dans la partie sud. On pourrait même avoir quelques éclaircies, surtout entre PACA et Corse, tout ça sous des températures en légère hausse l'après-midi, de 13 à 17 au nord et jusqu'à 26 au sud.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Et pour commencer, donc, direction Bordeaux et l'homme qui a tué avant-hier son épouse en pleine rue à Mérignac dans des circonstances effroyables. Et ce soir, dans le bureau du juge, il devrait être mis en examen et écroué. C'est ce qu'a indiqué tout à l'heure la procureure de la République, Philippe de Maria. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez assisté à cette conférence de presse, la procureure qui a livré un récit glaçant de ce drame.
Exactement. Frédéric Porterie, la procureure de Bordeaux, confirme tout d'abord la mort dans de terribles souffrances de Chaynaise.
Les premières conclusions des médecins légistes évoquent un décès suite à une détresse respiratoire aiguë, secondaire à une combustion vitale. En l'état, on peut donc penser que l'auteur a tiré sur la victime et que cette dernière était donc encore en vie au moment où il l'immolait.
Devant les enquêteurs de la Sûreté de Bordeaux, Mounir B raconte qu'il est resté 11 heures en planque en attendant sa victime. Il va tenter de justifier son geste.
Convaincu, selon ses dires, que son épouse avait un amant et qu'elle le manipulait, il aurait décidé de la punir des souffrances endurées, selon ses propos, mais sans souhaiter la tuer. Il stationnait vers 7h15 du matin sa fourgonnette avenue Carnot et voulait, je cite, « brûler un peu sa femme pour lui laisser des marques ».
Et une information judiciaire va donc être ouverte, notamment pour homicide volontaire par conjoint.
Et Philippe de Maria en direct de Bordeaux pour RTL. Concernant à présent le suivi de cet homme, les ministères de l'Intérieur et de la Justice ont demandé une enquête à leur service. Les premiers résultats sont attendus pour le 11 mai, mais dès cet après-midi, la procureure a donné un certain nombre d'éléments qui interpellent Alice Moreno.
Absolument, les inspections devront éclaircir un point en particulier. Chaynaise a déposé une plainte contre Mounir B le 15 mars dernier pour des violences. Cette plainte suffisait à faire sauter son sursis probatoire. S'il avait été retrouvé, il serait retourné immédiatement en prison. Il était donc inscrit au fichier des personnes recherchées. La procureure de la République de Bordeaux a dit cet après-midi encore qu'il était introuvable pour les services de police. Pourtant, Mounir B était suivi régulièrement, convoqué depuis sa levée d'écrou il y a 5 mois par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Il a répondu à 2 convocations fin mars et mi-avril, des rendez-vous qui interviennent donc après le dépôt de plainte de Chaynaise. En résumé, il était introuvable pour la police d'une part et sous la main des services pénitentiaires d'autre part. La question de l'échange d'informations entre les services est centrale, entre la police, le conseiller d'insertion et de probation et le juge d'application des peines.
Alice Moreau. Moreno du service police-justice de RTL. Il est 18h04 à Avignon cette fois. Toujours aucune trace de l'homme qui a abattu hier un policier. Les recherches, hein, bien sûr, sont toujours en cours.
Et sur place, la colère est immense. Ce soir, Marie habite le quartier et avec d'autres. Cela fait des années qu'elle s'inquiète, des années qu'elle tire la sonnette d'alarme.
Hier, on était là et on a vraiment été choqués par ce qui s'est passé. Et le fait de savoir en étant maman qu'il y a deux enfants qui ont un papa en moins, c'est quelque chose qui me bouleverse. Mais c'est un cri du cœur que tout le quartier pose depuis 6 ans. Depuis 6 ans, on dit, laissez pas nos gamins à 19h passer par cette place, on a peur. La rue Thiers, c'est un coupe-gorge. Tous les gens, chaque semaine, dénoncent les violences et les deals qui sont mis en place. Je dis pas que c'est au niveau de la police que ça se fait pas. En fait, j'en ai aucune idée de où ça bug. Et moi, de savoir que ma fille passe par une place où il y a des gamins qui ont des armes, ça me pose des questions autant pour le gamin qu'à l'arme. C'est qu'on l'a abandonné quelque part pour qu'il en soit là, que la mienne qui risque à un moment de se prendre une balle. Voilà.
Témoignage recueilli pour RTL par Étienne Baudu. Et je vous rappelle qu'à 18h35 et 18h30 même, c'est Frédéric Vaux, le directeur général de la police nationale, qui sera l'invité d'RTL Soir.
On en vient à la crise sanitaire et Emmanuel Macron accélère encore le calendrier vaccinal. Les plus de 50 ans vont pouvoir se faire piquer dès lundi, le 10 mai, au lieu du 15. Pour les autres, pour les plus jeunes, il sera possible de prendre rendez-vous à partir de mercredi. Mais attention, sous condition.
Nous ne voulons pas qu'on gâche quelques doses que ce soit. On veut optimiser et être sûr que toutes les doses seront pleinement utiliser. Donc à partir de mercredi 12, s'il y a à l'endroit où vous êtes des doses qui sont disponibles le lendemain et donc des rendez-vous qui ne sont pas pris, ils seront ouverts sans limite d'âge.
Bonsoir Virginie Garin.
Bonsoir.
Concrètement, comment ça va se passer ?
Alors concrètement, c'est encore en cours de discussion. Parfois, le président fait des annonces et l'administration court derrière. Mais en gros, quand un centre s'apercevra qu'il a le lendemain beaucoup de rendez-vous libres, peu de candidats et donc des doses en trop, sachant que les centres sont désormais réapprovisionnés toutes les semaines et de mieux en mieux, pas la peine de stocker trop de flacons, eh bien, il pourra dire aux plateformes de réservation je vais ouvrir tant de créneaux demain à des personnes qui ne sont pas éligibles. Alors ce sera à partir du 12 mai. Mais si vous avez moins de 50 ans, vous pourrez aller tous les jours sur Doctolib, Keldoc, Maya. Il y aura une case prévue supplémentaire comme motif de vaccination qui devrait s'appeler rendez-vous pour ne pas perdre de dose. Et vous pourrez donc vous inscrire pour le lendemain.
Donc c'est la case magique, hein, rendez-vous pour ne pas perdre de dose.
Ou quelque chose comme ça, ce n'est pas encore défini.
Merci beaucoup Virginie. Virginie Garin, Emmanuel Macron, qui travaille par ailleurs sur une sorte de RSA jeune. C'est ce que vous nous confirmez ce soir, Vincent Derosier.
Oui, c'est la mesure pour les jeunes que recherche désespérément le président depuis des mois. Alors, c'est l'esprit du RSA jeune réclamé par certains, et notamment la gauche, mais en beaucoup plus restrictif, car l'aspect assistanat effraie en Macronie. Alors, avec un RSA jeune, n'importe quelle personne, pour faire simple, entre 16 et 26 ans, pourrait prétendre à une allocation. Là, il s'agirait d'une indemnité mensuelle de 500 euros pour tout jeune qui n'a ni formation, ni stage, ni emploi. Et surtout, son versement serait conditionné à une recherche active de travail. Le bénéficiaire aurait aussi un suivi régulier avec un conseiller, des rendez-vous pour faire son CV ou pour s'entraîner à de faux entretiens d'embauche. C'est ce qu'explique un proche. Bref, c'est une façon de s'adresser surtout aux décrocheurs, à tous ces jeunes déscolarisés qui ne sont plus dans les radars du gouvernement et qui ne savent pas qu'il existe des dispositifs pour eux. Car en réalité, ce nouveau plan Macron, c'est plutôt une généralisation de ce qui existe déjà, confie un conseiller. L'objectif, c'est de toucher 1 million de jeunes, c'est ambitieux, contre 100 000 l'an dernier avec des dispositifs existants. Nous avons une dette envers la jeunesse, il faudra y répondre, a dit Emmanuel Macron tout à l'heure. Et à un an de la présidentielle, le chef de l'État espère faire les annonces lui-même avant l'été, alors que Marine Le Pen a déjà proposé toute une série de mesures à destination des moins de 25 ans.
Vincent Derosier du service politique de RTL. Du côté des Républicains, sachez que la crise continue. Après Hubert Falco, le maire de Toulon, c'est ce soir au tour de Christian Estrosi de quitter le parti, il l'annonce à nos confrères du Figaro.
Restez avec nous, deux rendez-vous à suivre. C'est un avec des Lensois, ça va venir vite, et puis l'autre avec Céline Dion. Là, il va falloir attendre un petit peu plus. À tout de suite.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
18h09, la suite du journal avec vous, Amandine Bégaud. Et un témoignage important aujourd'hui lors du procès de Nordal Lelandais.
Important car il remet en cause la version de l'accusé. Ce témoignage, c'est celui d'un ancien co-détenu, un homme à qui Lelandais se serait confié et que vous avez pu rencontrer, Serge Puyot.
C'est un témoignage qui a été contesté devant la cour d'assises. Nordal Lelandais a dit que jamais il ne s'était confié à ce co-détenu. Son avocat, maître Jakubowicz, a estimé qu'il ne fallait y accorder aucun crédit, car deux versions différentes avaient été données. Mais Farid, le fameux co-détenu, qui parle pour la première fois à un média, persiste et signe. Lelandais s'est bien confié à lui lors d'une promenade.
Le lendemain m'a dit comme quoi il avait dit à Arthur Noyer, il lui avait imposé une fellation. Et Arthur Noyer, lui, il lui avait dit non. Et voilà, il était comme un fou, quoi. Il était déjà rond et tout. Il est descendu de la voiture pour pisser. Et c'est là que le Landel le suivait derrière avec une. Qui a pris un caillou, qui lui a frappé un grand coup fort sur la tête, derrière la tête.
Ça, vous êtes affirmatif, il vous l'a dit.
Affirmatif, à 2000%, il lui a dit ça. J'ai pas inventé. Ce qu'il m'avait dit, c'était grave. Je pouvais pas garder ça pour moi et tout. C'est pour ça que j'ai demandé avant de rentrer en cellule. De voir le surveillant chef, j'ai voulu aider la justice. J'ai pensé aux parents et tout, et pour moi c'était grave. Je ne pouvais pas garder ça pour moi. C'est la vérité ce que j'ai dit.
L'avocate générale a, elle, précisé que l'accusation ne se fonderait pas sur ce témoignage au moment de requérir la condamnation de Nordal Lelandais.
Serge Pillot à Chambéry pour RTL.
On va se détendre un peu.
Oui, ça va faire du bien.
Avec du foot, avec ce qui sera le choc de la 36e journée de Ligue 1. Lens contre Lille, c'est demain soir.
Un derby en or. Lille, leader, rêve du titre. Les Lensois, eux, visent une place européenne. Des Lensois qui ont reçu aujourd'hui le soutien de leurs supporters. Ça faisait longtemps, très longtemps, qu'on ne les avait pas vus aussi nombreux à l'entraînement, Franck Hanson.
Oui, massé derrière les grilles du stade d'entraînement, bariolé en sang et or jusqu'au masque, ses supporters savourent ces retrouvailles avec leurs joueurs. Le message est bien passé avant ce derby chaud bouillant contre l'ennemi lillois.
On est chaud pour le derby, là. Il faut accrocher l'Europe, il faut empêcher Lille d'être champion. On n'a pu assister à aucun match. Donc forcément, c'est frustrant. En plus, qu'ils nous font une sacrée saison. Donc oui, forcément, ça fait du bien. C'est la suprématie régionale. Il faudrait les accrocher, bien sûr.
Au match aller, les Dogs s'étaient imposés 4-0. Les Sang et Or veulent donc leur revanche. Une équipe artésienne qui revient de loin, toujours soutenue par un public de fidèles comme Valentin.
C'est plus qu'un derby, je pense. C'est contre Lille, quoi. On n'a pas le choix de gagner, on a une revanche à prendre. C'est magnifique. C'est un promu, ils arrivent de Ligue 2, ils corrigent pas mal d'équipes. Lens va gagner demain.
Ouais.
Ouais, je vous le dis, je vous le confirme.
Même sans son public.
Même sans son public. On leur donne la force aujourd'hui, justement, et demain ils savent ce qu'ils doivent faire. Ouais, sur le terrain, c'est une belle équipe, c'est vrai. Mais bon, nous, on est des guerriers à Lens. C'est Lens, quoi. C'est depuis tout.
Et demain soir, dans les rues lensoises, un comité d'accueil est prévu jusqu'au stade Bollaert, avec des tribunes toujours désespérément vides.
Franck Hanson à Avion, au centre d'entraînement du RC Lens. Ça fait du bien d'entendre ça.
Ça fait du bien. Et on poursuit avec la bonne nouvelle du jour, en plus.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Pas du jour, du jour.
Oh. Et oui, Céline Dion. Elle sera bien sur scène aux Vieilles Charrues, mais alors pas cet été comme prévu, après le report de l'an dernier. Ce sera à l'été 2023.
Ah oui.
Donc, pas là, pas l'année d'après, l'année prochaine, mais l'année d'après.
C'est pas des bonnes nouvelles, c'est de la science-fiction.
Le 13 juillet 2023, c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la direction du festival, en fin de journée, j'imagine. Et Céline, elle a posté un petit message, écoutez.
J'avais tellement hâte de vous voir en Europe cet été. Mais comme vous le savez, en raison de la pandémie qui persiste dans le monde, nous devons encore repousser les dates. Mais il ne faut pas désespérer. Nous sommes très confiants de pouvoir enfin faire les spectacles en 2023. D'ici là, continuez d'être prudents et gardez bien la santé. 2023, on arrive.
2023, j'adore. Dans un jardin
d'enfants sur un balcon de fleurs. Ça vous permet de passer votre idole, Céline Dion, je vous reconnais bien là. Merci beaucoup à vous.
À tout à l'heure.
Amandine Bégaud, à tout à l'heure. Après le drame effroyable de Mérignac, Elisabeth Moreno, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, et l'invité d'RTL Soir, c'est tout de suite et c'est en direct.
RTL Soir, Thomas Soto. RTL Soir, Thomas Soto.
Elle est la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Elisabeth Moreno, et donc l'invitée d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Elisabeth Moreno.
Bonsoir Thomas Soto, bonsoir Chaynaise, à toutes et à tous.
Chaynaise avait 31 ans, elle avait 3 enfants. Elle est morte avant-hier vers 18h10 dans des conditions effroyables, poursuivie par son mari, qui lui a d'abord tiré dessus, avant, alors qu'elle était encore en vie, de l'asperger d'un liquide inflammable, puis de la brûler. Cet homme récidiviste, déjà condamné pour violence conjugale, était sorti de prison début décembre, et il purgeait depuis une peine avec sursis. Le 16 mars, Chaynaise avait porté plainte contre lui. Tout le monde savait dans son entourage qu'elle était en danger. Aujourd'hui, Chaynaise est morte. Elle a 3 enfants, 3 petits de 5, 7 et 12 ans, qui se demandent où est passée leur maman. Je voudrais qu'on écoute pour commencer le témoignage d'un homme qui a assisté à ce qui s'est passé avant-hier là-bas.
J'ai entendu dans la rue des cris, un homme et une femme, et puis j'ai entendu 2 détonations. Moi, je pensais que c'était des pétards et que les personnes les engueulaient, parce que ça arrive quelquefois. Et puis j'ai pris mon bip, et puis je me suis mis là, j'ai ouvert le portail. Et puis quand le portail s'est ouvert, j'ai vu la femme qui était dans le caniveau, la tête dans le caniveau et allongée sur le trottoir, et le gars qui lui déversait le bidon. Alors moi, j'ai hurlé, je lui ai dit d'arrêter, je l'ai traité de tous les noms, de salopard, tout ce que je pouvais. Il n'a jamais détourné la tête. Et puis, j'ai foncé dessus. Et puis, il s'est baissé, puis il a allumé avec son briquet. Et quand je suis arrivé dessus, j'étais à 1m50, il m'a braqué avec un pistolet. La femme, elle hurlait à côté parce qu'elle était, il y avait des flammes comme ça. Donc lui, il a ramassé sa carabine qui était au sol. Il venait de tirer les deux coups. Il s'est mis la carabine sous le coude, il a bricolé, il a rechargé. Et puis il m'a regardé, mais visage vide. Et puis il est parti en petite foulée.
Témoignage recueilli par Denis Grandjou. Elisabeth Moreno, ce crime, cet assassinat est insupportable. Mais ce qui est aussi insupportable, c'est de se poser cette question que je vous pose. La mort de Chaynez aurait-elle pu être évitée?
Vous avez raison, quand on entend ce témoignage, je veux quand même vous dire que ce témoignage est d'une telle, enfin, cet acte est d'une telle barbarie qu'aucun être humain, sain de corps et d'esprit, ne puisse imaginer qu'un homme qui a eu 3 enfants avec une mère, une femme, puisse lui tirer dans les jambes pour et ensuite l'immoler. Et je pense à ces 3 enfants qui restent. Et je veux exprimer évidemment toute mon émotion à sa famille. Et je peux vous dire que je suis très en colère. Parce que, vous voyez, quand on met en œuvre tout ce qui a été mis en œuvre, quand on vote les lois, quand on met les bracelets anti-rapprochement en place, quand on met les téléphones grave danger en place, quand on met tous ces dispositifs qui ont été mis en place depuis le Grenelle des violences conjugales et qu'on en arrive là, tout ce qu'on fait, c'est pour éviter que ce genre de drame se reproduise.
Mais peut-être que ce qui est fait n'est pas suffisant. Il y a tous les pourquoi autour de cette affaire. Pourquoi Chaynez n'avait-elle pas de téléphone grave danger? Pourquoi lui n'avait-il pas de bracelet anti-rapprochement?
Moi, je vais vous dire une chose. Ce que j'ai envie de faire, là, ce soir, c'est rappeler à toutes les personnes qui nous écoutent que le drame des violences conjugales n'est pas une affaire simple et que face à cette ignominie, on doit tous se poser la question de cette violence que ces hommes commettent et qui vont parfois très, 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 très
mais
loin
tout,
comme ce soir.
Pardon,
laissez-moi
mais
terminer.
Tout le monde se
s'il
l'est
vous plaît,
posé.
S'il vous plaît, laissez-moi terminer parce que c'est vraiment important. Moi, j'ai juste envie de lancer un appel à tous les juges de France qui ont compris combien ces drames intrafamiliaux étaient graves. J'ai envie de leur lancer un appel et de leur dire de considérer toutes ces violences conjugales comme des priorités au sein de leurs tribunaux. J'ai envie de
leur
dire...
C'est pas le cas aujourd'hui ?
Je pense qu'il y a déjà une prise de conscience très importante, mais vous savez, c'est un changement culturel dans lequel nous sommes rentrés. Il ne faut pas... Il y a encore quelques temps, ces drames intrafamiliaux étaient considérés comme des actes de faits divers. Aujourd'hui, ils font la une des journaux. Tout le monde s'en émeut. Ça veut dire que notre pays est en train de prendre conscience de l'inhumanité de ces actes et tout notre pays doit s'en saisir et les juges ont les moyens aujourd'hui au travers des lois qui ont été votées de changer cela.
Donc
et c'est
juges,
pour ça que je leur
les
lance
juges doivent s'impliquer
cet appel.
Davantage.
Je demande aux juges qui ont compris aujourd'hui et je pense notamment à des procureurs que j'ai rencontrés comme Éric Morel qui se sont saisis de ces violences intrafamiliales parce qu'ils ont compris le mal que ça créait dans notre société et d'en faire des priorités dans tous les tribunaux de France comme beaucoup ont déjà commencé à le faire, et que les téléphones, que les ordonnances de protection soient démultipliées. Mmh. Aujourd'hui, 60% des ordonnances de protection qui sont demandées ont une réponse favorable.
Mais vous comprenez,
il faut
pardon,
démultiplier,
Elisabeth Moreno,
pardon Thomas,
non, mais
il
j'ai
faut
quand même vous poser
démultiplier
deux
ces demandes.
D'accord.
Vraiment,
pourquoi Chaynez n'avait pas
là-dessus.
De téléphone grave danger? Pourquoi
je
lui n'avait pas de bracelet anti-rapprochement? Pourquoi, si je ne me trompe, il y a aujourd'hui en France 37 bracelets anti-rapprochement qui ont été distribués, 37 bracelets contre 39 féminicides depuis le début de l'année. Comment ne pas se dire qu'on n'a pas encore compris l'ampleur du problème?
Dès que nous avons eu connaissance de ce drame ignoble, j'ai demandé, et Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin ont lancé une inspection générale de l'administration et de la justice pour comprendre tous les dysfonctionnements potentiels qui ont pu avoir lieu. Et je peux vous assurer, nous aurons la réponse la semaine prochaine, que nous allons tirer chaque leçon de ce qui s'est passé. Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui sur votre question de manière manière précise. D'abord parce qu'il faut se garder de répondre dans l'émotion et ensuite parce qu'il faut aller au fond de cette affaire et comprendre exactement ce qui a pu dysfonctionner parce que je vous le redis encore, 3 lois ont été votées. Moi, j'ai assisté à l'un de ces votes à l'Assemblée nationale au mois de juillet pour dire qu'il faut saisir les armes des personnes dès qu'il y a une violence conjugale. Il faut que la police saisisse les armes.
Excusez-moi, là je me permets de vous interrompre. Chahinez disait de son mari qu'il était un monstre. Il le disait, ses proches, ses voisins l'ont dit. Pourquoi précisément son bourreau avait encore des armes à feu? C'est incompréhensible. Il sortait de prison. En novembre 2019, votre prédécesseur avait dit, ici même, dans ce studio, que les armes des auteurs de violences seraient saisies. Au mois de février, le ministère de l'Intérieur, février 2021, avait demandé au préfet de saisir systématiquement les armes des conjoints violents dès la plainte.
Est-ce que je peux vous rappeler que cet homme a été condamné et qu'il a été emprisonné? Donc ça veut dire quand même que le sujet n'a pas été laissé de côté. Est-ce que je peux vous dire que la police aujourd'hui a la possibilité d'aller saisir les armes dans le domicile et il pose la question aux victimes pour savoir s'il y a des armes dans le domicile et il se trouve que ces armes n'étaient pas dans le domicile et ils n'étaient pas déclarés. Donc c'est pour ça que je vous dis que ces sujets sont éminemment complexes et que c'est en se saisissant de ces sujets de manière très très vaste et que toute la société se sente concernée et que tout le monde puisse apporter sa pierre à l'édifice que nous arriverons à enrayer ce fléau. Donc aujourd'hui, les armes sont saisies.
Il y en a beaucoup. Combien il y en a? Vous savez combien il y en a qui ont été saisies déjà depuis février ou pas?
Non, je ne peux pas vous dire combien d'armes sont saisies. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une priorité. Ce que je peux vous dire, c'est que jamais les forces de l'ordre et les gardiens de la paix n'ont jamais été autant formés sur ces questions de violence. Jamais il n'y a eu autant de focus et d'interventions prioritaires pendant toute la période du confinement. Ça a été le cas et aujourd'hui, ça continue. Jamais le 3919 n'a été aussi prêt à répondre à tous les appels. Le 114. Arrêtons les violences.gouv.fr.
Elisabeth Moreno, je ne remets pas en doute votre bonne volonté, et en plus vous n'êtes pas en fonction depuis des années et des années. Mais vous parlez du 3919, numéro d'appel et d'écoute anonyme et gratuit destiné aux femmes victimes de violences. Il devait être ouvert 24 heures sur 24. Promesse du Grenelle contre les violences faites aux femmes. C'était en novembre 2019. Pourquoi c'est toujours pas fait?
Parce que c'est un travail long. Parce que c'est un travail qui engage les associations. Aujourd'hui, le 3919 est une fédération d'associations.
Novembre 2019.
Oui.
Et le 8 mars 2020, Marlène Schiappa disait « Ça sera ouvert 24 heures sur 24 d'ici la fin de l'année dans des nouveaux locaux permettant d'accueillir plus d'écoutants. »
Et nous mettons tout en œuvre pour que cela soit le cas à partir de cet été au mois de juin.
Donc au mois de juin.
À la fin du mois de juin, nous mettons tout en œuvre pour que les femmes qui ont besoin d'aide et d'accompagnement puissent avoir accès au 3919, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Des associations féministes, Elisabeth Moreno, demandent ce soir des mesures d'urgence et aussi plus de moyens pour faire appliquer la loi. Parce qu'on voit bien que la loi existe, que les dispositifs ont été pris, mais c'est peut-être un problème de moyens aujourd'hui. Quelles mesures d'urgence vous allez prendre pour éviter que demain, après-demain, la semaine prochaine, on revive le même genre d'histoire?
Je pense qu'il est important de rappeler encore une fois que l'arsenal juridique pour lutter contre les violences intrafamiliales existe. Les mesures ont été mises en place. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un changement culturel et c'est un voyage qui est extrêmement long dans lequel nous sommes engagés, mais dans lequel nous sommes déterminés.
Est-ce que vous vous sentez assez soutenu par le gouvernement, par le Premier ministre, par le Président de la République sur ces sujets-là?
15 ministres accompagnaient Édouard Philippe lorsque le Grenelle a été lancé, parce que cette question est une question interministérielle. Olivier Véran a décidé de faire en sorte que les femmes puissent déposer leurs plaintes dans les hôpitaux. Gérald Darmanin intervient à chaque fois que cela est nécessaire. Il a envoyé cette circulaire, comme vous le disiez tout à l'heure, sur la saisie des armes. Éric Dupond-Moretti a fait en sorte que les tribunaux se saisissent de ces questions en priorité.
Et vous interpellez les juges ce soir pour dire, les amis, prenez conscience de la situation. Ça veut dire que les intentions sont bonnes, les intentions sont louables, et c'est le passage à l'acte, entre guillemets, qui est peut-être un peu plus compliqué, c'est
ça ? Cet appel que je lance n'est pas lié au fait que la mise en œuvre soit compliquée. Elle est liée au fait que j'interpelle toutes les personnes qui peuvent faire la différence. Et je sais le rôle des forces de l'ordre et de la justice pour faire bouger les lignes. Ils ont déjà beaucoup fait dans des circonstances compliquées, puisque tout cela s'est passé sur l'année 2020. Et je les interpelle encore une fois pour leur dire que c'est ensemble que nous enrayerons ces fléaux.
Elisabeth Moreno, est-ce que vous souhaitez qu'on en vienne aux tribunaux spécialisés comme en Espagne, Allemagne, des tribunaux qui sont chargés de juger au civil et au pénal les auteurs de violences conjugales. Est-ce que ça, c'est une piste qui a d'abord été écartée? Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites bah, peut-être qu'il faut qu'on y réfléchisse aussi?
Moi, je dis que toutes les mesures que nous pouvons prendre, qui peuvent nous permettre d'aller encore plus loin, encore plus fort sur ces questions, doivent être considérées.
Donc, vous dites pourquoi pas là-dessus?
Je dis que toutes les mesures doivent être considérées. L'Espagne et la France sont différents dans la manière dont ils gèrent leur justice. Donc, on ne peut pas faire de copier-coller. J'ai parlé à mon homologue espagnol il y a 2 semaines pour comprendre exactement ce qui a bien fonctionné chez eux et ce que nous devons reprendre. Et je voudrais juste vous dire que l'Espagne a rencontré les mêmes difficultés que nous rencontrons en France et que ce qui a bien fonctionné, c'est cette prise en considération de l'ensemble du gouvernement et de tout le pays de ce fléau. Et c'est exactement ce que nous avons fait depuis 2017 et que nous allons continuer de faire avec les associations, avec les différents ministères et toute la société civile.
J'ai une dernière question, Elisabeth Moreno. Quel est le message que vous envoyez aux femmes battues qui nous écoutent, qui sont terrorisées et qui se disent, en entendant que cette femme avait porté plainte encore au mois de mars, qui se disent... Ça sert à rien que je parle, que je porte plainte, ça va mettre de l'huile sur le feu, j'aurai encore plus de problèmes, ça ne réglera rien.
Je vais leur dire que ça sert à quelque chose parce que la justice aujourd'hui se saisit de ces cas, parce que la police entend ces cas. Je vous rappelle encore une fois que cet agresseur avait été condamné, qu'il a été emprisonné.
Il avait un sursis probatoire. Qui n'a donc pas
il
été
avait un sursis probatoire, mais on ne peut pas non plus négliger ce qui a été fait. Donc le cas, il a été jugé en comparution immédiate. Donc vous ne pouvez pas, je pense que c'est dangereux de faire penser que rien ne fonctionne. Pour la première fois l'année dernière, en 2020, le nombre de féminicides est descendu en dessous de 100. C'est la première fois depuis 2006. Chaque féminicide est un féminicide et nous devons le combattre. Mais c'est dangereux de dire aux femmes qu'il ne faut pas parler parce que ça ne sert à rien, parce que les chiffres montrent que cela sert, la parole se libère, elle doit continuer de se libérer. Nous avons énormément investi et nous continuons d'investir et je veux encourager ces femmes à prendre la parole pour que le cas de Chahinez ne se reproduise jamais et ça commence par la libération de la parole.
Merci Elisabeth Moreno, on rappelle ce numéro du 3919, numéro d'appel et d'écoute anonyme, gratuit qui fonctionne pour l'instant 7 jours sur 7 de 9h à 21h et qui passera à 24h sur 24 au mois de juin, donc comme vous nous l'avez annoncé. Merci à vous d'être venu ce soir dans RTL Soir. Il a passé la journée à Avignon où un de ses hommes a été abattu hier soir. Dans un instant, c'est Frédéric Vaux, le directeur général de la police nationale, qui est l'invité d'RTL Soir.
Thomas Soto, RTL Soir. RTL Soir avec Thomas Soto.
18h29, le rappel des titres, Amandine Bégaud.
Et Emmanuel Macron accélère le calendrier vaccinal. Les plus de 50 ans vont pouvoir se faire piquer dès lundi, les autres les plus jeunes à partir de mercredi, mais à condition qu'il reste des créneaux libres. De nombreuses réactions encore ce soir après ce féminicide à Mérignac. Elisabeth Moreno, la ministre de l'égalité entre les hommes et les femmes, se dit ce soir sur RTL très en colère. Elle lance un appel à tous les juges de France, leur demande de faire des violences conjugales une priorité. Ce matin, les ministères de l'Intérieur et de la Justice ont lancé une enquête auprès de leurs services pour comprendre ce qu'il a pu se passer. Chahinez avait porté plainte mi-mars contre son mari, un homme déjà condamné pour violence conjugale et qui était sorti de prison il y a quelques mois seulement. Et puis, nouvel épisode chez les Républicains. Après Hubert Falco, le maire de Toulon hier, c'est au tour de Christian Estrosi de quitter le parti. Il l'annonce dans les colonnes du Figaro.
La météo, t'as qu'à croire de Peggy Broche qui nous dit ça ira mieux demain.
Et oui, c'est vrai en plus, Thomas. On va retrouver un ciel plus lumineux et sec, en tout cas sur la moitié nord. C'est vrai, encore bien gris avec quelques pluies entre l'Aquitaine et les frontières de l'Est, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. De la neige en montagne, toujours dès 1400 mètres. Attention au risque d'avalanche sur les Alpes du Nord. Et puis dans l'après-midi, les nuages vont se morceler dans le sud. Il n'y aura que quelques rares averses. Du soleil entre PACA et Corse avec beaucoup de vent. Et puis le ciel sera variable entre nuages et éclaircies sur toute la moitié nord. Tout ça sous des températures comprises entre 13 et 17 degrés au nord, jusqu'à 26 au sud.
Merci Peggy.
Thomas Soto, RTL Soir.
Il est le directeur général de la police nationale, Frédéric Vaux, et l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue Frédéric Vaux. Vous êtes du côté d'Avignon, dans le Vaucluse, puisque c'est là-bas qu'hier soir, un de vos hommes, un brigadier de 36 ans, père de famille, a été tué par balle. Ça s'est passé près d'un point de deal lors d'une tentative d'interpellation. Parlez-nous, si vous voulez bien, pour commencer, de ce brigadier de police qui a été tué. Qui était Éric Masson?
C'était un jeune policier
très engagé, très, très motivé, passionné par son métier, qui était issu d'une famille de policiers. D'autres membres de sa famille ont été ou sont policiers. Quelqu'un de très sportif, avec un très bon état d'esprit, beaucoup de motivation et d'engagement dans son travail. C'est vraiment un choc immense pour la sécurité publique à Avignon, mais aussi dans toute la police nationale. Une très grande tristesse, une très grande émotion, une douleur profonde même, je crois, pouvoir dire, avec également de la colère face au caractère ignoble de cette agression. Mais la colère se mêle aussi à la dignité, beaucoup de dignité chez tous les fonctionnaires que j'ai eu l'occasion de croiser et de rencontrer.
Un homme qui était aussi le papa de deux filles, âgées de 5 et 7 ans. Vous parlez d'émotion, de dignité. On entend aussi la colère des policiers, des policières du pays ce soir. Les syndicats dénoncent l'ensauvagement de la société. Est-ce que l'ensauvagement, ça correspond à ce que vous constatez sur le terrain? Est-ce que vos troupes constatent sur le terrain?
Cette colère, elle est légitime, Thomas Soto. Je le vois bien depuis que j'ai pris mes fonctions il y a un peu plus d'un an. On voit cette violence qui s'exprime à l'égard des policiers, cette agressivité, l'absence de respect des institutions et de celles et ceux qui les représentent. C'est vraiment insupportable pour tous ces hommes et toutes ces femmes qui risquent leur vie au quotidien pour protéger les personnes et les biens, pour protéger les Français. Les policiers attendent beaucoup de soutien de la part de la population et ne supportent plus d'être agressés de cette façon dans le cadre de leur travail, de l'accomplissement de leur mission.
Eux protègent les citoyens, venez-vous de dire, hein, Frédéric Vaux, mais certains syndicats estiment que l'État ne les protège plus, ces policiers. Quelle réponse effective vous pouvez leur donner à vos hommes qui ne se sentent plus protégés par l'État ?
L'État, la Direction générale de la police nationale, s'efforce, met les moyens nécessaires pour les protéger. Face à des attaques aussi bestiales que celles à laquelle nous avons assisté hier soir, finalement, on est assez démunis. Il faut qu'on trouve les moyens de les protéger physiquement, les policiers, de les protéger juridiquement. C'est la responsabilité du directeur général de la police nationale, d'ailleurs. C'est ma responsabilité première.
Il faut changer la loi.
De faire en sorte que chaque policier a certainement, il y a des progrès législatifs à faire, mais ça n'est pas au directeur général de les proposer. Nous, dans la police, on est chargé de l'appliquer la loi, et il y a déjà beaucoup d'éléments qui permettent de mettre en œuvre des moyens très sévères pour protéger les policiers. Mais c'est aussi une attitude générale de la part de l'ensemble des citoyens, de la société, de respect de l'autorité, de respect de celles et ceux qui représentent cette autorité et qui ne font que servir la République, servir l'intérêt général. Et donc là, ça devient inacceptable. C'est même des comportements, si vous voulez, au quotidien, de la part de citoyens, de jeunes gens qui injurient, qui insultent les policiers. Et finalement, on finit par imaginer ou à croire que blesser, attaquer, s'en prendre à un policier, ça n'est pas grave. Ça n'est presque finalement que dans l'ordre des choses. Donc c'est, je pense, au-delà même des dispositifs qui sont nécessaires. Je l'ai dit, législatif, réglementaire, de donner tous les moyens matériels également aux policiers pour se défendre. C'est vraiment une prise de conscience de la société dans son ensemble, de cette nécessité de respecter le policier pour ce qu'il est, pour ces hommes et ces femmes qui sont aussi des pères, des mères de famille, des frères, des sœurs, et qui sont parfaitement inclus dans cette société, qui sont représentatifs de cette société et qui ne méritent pas les traitements qui parfois leur sont infligés.
Bah précisément, il y a eu des exemples, on va dire, d'incivilité. Encore le mot est faible. C'était samedi, lors d'une manifestation, le 1er mai, on a vu des tags se réjouissant de Magnanville, hein, ville où deux policiers avaient été tués chez eux en 2016. On entend des « suicidez-vous » envoyés régulièrement au visage des forces de l'ordre. Pour vous, ce sont des actes isolés ou vous sentez
ignoble,
monter
non,
une haine anti-flic dans le pays?
Ce que vous décrivez. Alors, haine anti-flic dans le pays, je ne vais pas dire ça, parce que quand on y regarde de plus près, la population, dans sa très grande majorité, soutient les policiers. Et finalement, ce sont ceux qui crient contre la police, qui injurient, qui insultent, qui agressent la police, qu'on entend le plus, qui se manifestent de la manière la plus visible. Donc je défends toujours l'idée que la très grande majorité de la population soutient et apprécie le travail que fait la police. Mais pour toutes celles et ceux qui se livrent à ces actes ignobles, à ces injures insupportables, il ne faut pas croire que les paroles font moins de mal que les actes. De faire comme ça référence aux suicides suicide dans la police ou à ce qui s'est passé à Magnanville, on ne peut pas l'accepter, on ne peut plus le supporter. C'est une insulte, une injure à celles et ceux qui ont perdu la vie ou qui ont laissé une part d'eux-mêmes dans l'accomplissement de leur devoir.
Sans présumer, Frédéric Vaud, ce que dira l'enquête à Avignon, on est dans un contexte particulier là-bas. Il y a une soixantaine d'opérations anti-drogue qui ont été menées dans la ville depuis le début de l'année. Ce qui s'est passé hier soir n'est-il pas la preuve que les trafiquants s'en moquent, qui restent finalement les maîtres sur leur territoire, quelles que puissent être les déclarations tonitruantes des ministres qui se succèdent?
Je ne crois pas. C'est parce que justement, ça leur devient insupportable. On les dérange et on va continuer à les déranger. Notre volonté, c'est de reconquérir des territoires, du terrain. C'est difficile, c'est compliqué, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais le ministre de l'Intérieur a décidé d'engager beaucoup de moyens de la part de la police pour traquer les trafiquants, traquer les dealers, celles et ceux qui empoisonnent le quotidien des gens qui veulent vivre paisiblement dans les quartiers, dans les villes et même parfois dans les campagnes. Et donc ce qui s'est passé hier soir ne va pas nous faire reculer, au contraire va renforcer notre détermination à être toujours plus efficace, et nous le devons sans doute à notre collègue qui a perdu la vie hier soir.
Gérald Darmanin, votre ministre, parle d'une guerre à mener. Vous avez les moyens sur le terrain des ambitions affichées par le ministre de l'Intérieur?
Oui, bien sûr, on y met les moyens en termes... Non, mais bon, il faut toujours plus de moyens. Vous le savez, tout le monde réclame toujours davantage de moyens, et le ministre de l'Intérieur est tout à fait décidé à nous en donner. Donc ce sont des moyens en enquêteurs, des moyens matériels, des dispositions législatives et réglementaires pour nous faciliter le travail. C'est aussi mobiliser les collectivités territoriales, mobiliser certains opérateurs comme les bailleurs sociaux, les sociétés de transport. Et c'est aussi, je pense, ça passe par une mobilisation citoyenne. Il faut que les citoyens se mobilisent. On a mis en place un numéro vert qui permet à celles et ceux qui sont témoins de trafic de stupéfiants de nous alerter. C'est anonyme sur Internet, sur le site moncommissariat.fr. Et c'est un dispositif qui rencontre beaucoup de succès. On a beaucoup de signalements qui nous parviennent, qui décrivent ces trafics de drogue qui vraiment empoisonnent le quotidien de tout le monde et qui mettent en danger la santé de beaucoup de nos concitoyens.
Dernière question, Frédéric Vaud. Qu'est-ce que vous dites ce soir à tous ceux qui, parmi vos troupes, se sentent découragés? Quel est le message que vous leur envoyez, vous, en tant que directeur général de la police nationale?
Déjà, un message de confiance à leur égard. Je sais ce qu'ils font, ce qu'ils endurent, quelles sont leurs qualités professionnelles, personnelles, les valeurs morales qui les animent. Ils ont aussi le soutien de leur ministre, le soutien du gouvernement, le soutien du président de la République, le soutien de la population, de la société. Et donc il faut que les malfaisants, les criminels, les délinquants sachent que rien ne nous arrêtera, que nous mènerons notre combat jusqu'au bout avec l'objectif d'éradiquer partout où nous le pourrons ces trafics de stupes qui sont vraiment un poison pour notre société.
Merci. Message d'émotion et de détermination ce soir. Frédéric Vaud, directeur général de la police nationale, permettez-nous au nom d'RTL de nous associer à la peine des proches d'Éric Masson. On pense également à Stéphanie Montfermé, cette femme qui a été tuée par un djihadiste au commissariat de Rambouillet. C'était il y a 2 semaines. Elle était agente administrative dans ce commissariat. Elle avait, elle, 49 ans. Merci beaucoup à vous, Frédéric Vaud.
Merci Thomas Soto. Merci de vos propos de soutien. Merci à vous.
Voilà, dans un instant, on va sourire un peu. Ça va nous faire du bien, c'est Philippe Cavrivière. Il est Cavrivière, l'œil de Philippe. Ah, vous êtes là, Philippe?
Oui, c'est moi.
Ouais, regardez-le en vidéo, il a déjà un petit maillot tout rose. Là, je sais
pas. Télétubbies rose. Ouais.
Télétubbies. Ouais. Allez, à tout de suite sur RTL et sur RTL.fr.
RTL Soir, Thomas Soto. Thomas Soto,
RTL Soir.
Non mais là, 18h41 le jeudi, c'est surtout Philippe Cavrivière qui compte. Bonsoir Philippe.
Bonsoir, je suis tout décalé.
L'œil de Philippe, c'est un peu plus tard que d'habitude, mais vous ne nous avez pas trop manqué.
Ça commence bien.
Une saloperie.
Un petit bisou pour commencer. C'est aux lecteurs et aux mélomanes que je m'adresse, Philippe. Vous allez nous parler du livre de Michel Sardou, Je ne suis pas mort, je dors.
Ah, Michel, je l'ai tellement vu partout ces derniers jours que j'ai cru qu'on commémorait son bicentenaire. Alors attention, Sardou à l'heure des pros de mon Pascalou, mon Pascal Pro, on ne le commémore pas, on ne le célèbre pas, on le vénère. Et ce soir, je fais de la pub, c'est une spéciale Sardou dans l'heure des pros 2. Ils sont comme des dingues sur CNews. Il faut dire qu'ils reçoivent le pape du « c'était mieux avant ». Le Zidane du « Les politiques, c'est tous des pourris ». Le Mozart du « On peut plus rien dire ». Car Michel Sardou dit tout haut ce que Gérard Lanvin chante tout faux.
Hein,
vous n'avez pas entendu Gérard Lanvin?
Oh, ah non.
Ah, j'adore l'acteur, mais le chanteur, oh la vache. Alors, revenons à Michel.
Il viendra bientôt nous voir, donc vous viendrez lui expliquer.
Oh, putain, j'ai dit que je l'adorais. Alors, revenons à Michel, le Jean-Jacques Goldman de droite. Bon,
dis donc,
tube, ne m'appelez plus jamais
hein.
France. Ils ont le pétrole, mais ils n'ont que ça. Je suis pour sur la peine de mort. C'est d'une modernité. Bon, Sardou, c'est comme Napoléon, il ne faut pas l'écouter avec des oreilles de 2021. Sardou, vous avez entendu, il était repris par les Kids United, des petits jeunes qui reprennent les mots d'un papy réac. On connaît ça avec Marion Maréchal. Qui a repris les mots de son papy, Jean-Marie, n'est-ce pas? Alors, en tout cas, on souhaite beaucoup
de succès.
Je trouve
que vous abusez un peu du Jean-Marie parce que vous savez qu'il me fait beaucoup rire.
Ouais, j'ai une part panique. Ouais, c'est la science. En tout cas, on souhaite beaucoup de succès au livre de Sardou. Il a été tiré à 100 000 exemplaires. Bah, il a presque été autant tiré que Michel Sardou, qui a été... Allez. Non, vous avez vu qu'il n'a pas pris une ride, il en a perdu.
Oui, bon. C'est ça. On va parler philo, si vous voulez bien. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, a annoncé que l'épreuve de philo allait être aménagée pour le bac. Hein, les élèves pourront présenter en fait un mot qui indiquera quelle partie du programme ils n'ont pas pu étudier pour ne pas être interrogé dessus. C'est pas mal.
Ouais, tranquillou. Alors, Thomas, cette année, la philo aura autant servi aux élèves que l'art plastique ou les cours de flûte à bec. Désormais, la philo prend la meilleure note dans le contrôle continu ou on fait l'épreuve, on choisit quoi. Demain, c'était autre chose. Ah merde, vous avez vu, j'ai fait une Pascal Pro, j'ai dit c'était mieux avant.
Ah bah oui, dis donc.
En gros, tous les élèves qui penseront à venir avec un stylo, vous aurez une mention. Voilà, c'est clair. On ne se prépare pas des générations de Raphaël Toven, c'est moi qui vous le dis. Bon, moi j'étais très bon en philo.
Vous
ouais, bah j'ai pas de mérite, j'ai une passion pour la Grèce,
vous
c'est le berceau de la philo. Bah je connais tous les dieux grecs, arrêtez de me dire vous. Le dieu des ringards, Bolos.
Ouais.
Dieu de la photo.
Nikos.
Nikos.
Ah ouais, c'est facile.
Dieu de l'amour. Pornos, c'est son frère. Et le dieu de l'info, Sotos. Bon, je ne sais pas pourquoi je faillote avec vous, vous barrez sur
Télématin. Oui, c'est ça, sans doute qu'il veut rester l'année prochaine. Hein, c'est sûr, ouais. Bon, je vous remercie quand même, mon
ami. Je vous en prie.
Parlons de la polémique de la semaine. Donc, fallait-il commémorer ou pas Napoléon, dont c'est le bicentenaire de la disparition?
Oui, un peu d'histoire. Ressituons le personnage. Pour la droite, Napoléon, c'est Sœur Emmanuelle. Et pour la gauche, c'est Nordal Lelandais. Enfin, je schématise, en gros.
Le pour pire, ceux qui ne l'auraient pas reconnu, c'est Stéphane Bern.
C'était ça, voilà. C'est bien de préciser. Le pire dans cette commémoration, c'est qu'on a revu Pierre-Jean Chalençon à la télé.
Mais ça, c'est fou.
Oh là là, vous imaginez si Napoléon revenait, il verrait un cinglé avec la coupe de Polnareff en train de dormir dans son lit et de porter son slip préféré tricoté par Joséphine. Alors, bien sûr, Napoléon a des zones d'ombre, la misogynie, l'esclavage et bien sûr la comédie musicale de Serge Lama. Tout ça, bien sûr, est très grave. Encore que l'esclavage existe toujours. En 2021, ça s'appelle le stagiaire de troisième ou le livreur Deliveroo, même s'il faut avouer que c'est pratique quand même quand t'as envie d'un Pokéball saumon, avocat à 21h30.
C'est votre commande là pour ce soir?
C'est ça, pour
d'accord,
ce soir.
D'accord. Bon. Alors, comme je sais que vous êtes aussi un expert de la géopolitique internationale, il vous a pas échappé que Napoléon fait pas l'unanimité partout. Il est par exemple très impopulaire en Grande-Bretagne.
Ouais, et pourtant les Anglais ont battu Napoléon 6-3, 4-6, 7-5 au troisième set. Pas sûr du score. Hein.
Ouais.
Rappelons qu'à Trafalgar, Napoléon s'est pris une tôle par la mirade Nelson, et j'ai ici un document exclusif, c'est mon petit côté historien, mon petit côté Stéphane Bern, une archive audio de l'amiral Nelson. On écoute.
Oui, bonjour à tous, c'est l'amiral Nelson. Alors je vous confirme que Napoléon est bien une quiche, nul en attaque, nul en défense, nul en fond de cours, bref, c'est bien un français.
C'est l'amiral Nelson, c'est authentique.
Bon, on passe de Napoléon à Walt Disney, avec cette polémique sur le dessin animé Blanche-Neige. La femme met mal à l'aise deux journalistes américaines car le prince charmant, souvenez-vous, donne un baiser non consenti à Blanche-Neige.
Donc le prince devient un prédateur sexuel.
Pardon.
Donc je vous annonce le sacre du premier degré. Le premier degré devient empereur, comme Bonaparte. Bon alors, soyons plus cons qu'eux. Je vous préviens, c'est dans mes cordes. Au moment du baiser, elle est morte, hein, Blanche-Neige.
Ouais,
donc
oui,
c'est
oui.
Pas seulement un prince violeur, c'est un prince nécrophile. Il fait du zizi avec une morte.
Oh, non.
D'ailleurs, Blanche-Neige,
vous avez quand même un sens de la pédagogie qui vous honore. Hein.
D'ailleurs, Blanche-Neige, elle fait le ménage et elle se fait embrasser de force. C'est un peu la même vie que Nafissa Toudialo, sans prendre $1 million. Alors, revenons au nettoyeur de Disney. Si on va par là, Winnie l'ourson, c'est un exhibitionniste. Il met pas de slip, Winnie. En plus, il traîne avec un porc et un gars qui rebondit sur sa queue. Porcinet et tigrou. Trois détraqués sexuels.
Actuellement exact.
J'ai pas fini. Cendrillon, elle va aller au bal. Oui. Est-ce qu'on lui met une amende de 135 euros pour participation à des fêtes clandestines ? Cendrillon, qui avait la chance d'avoir un couvre-feu à minuit. Elle, oui, pas comme nous.
Pas comme vous. Votre délit de roue arrivera à 21h30 et pas
c'est
après.
Ça.
On cite souvent le petit chaperon rouge dans les contes emblématiques.
On est tous d'accord que ce conte, c'est n'importe nawak. Si on le prend en premier degré, le loup parle et l'enfant lui répond. Tranquillou, voilà. Donc cet enfant se drogue autant qu'un toxico de Stalingrad. Ensuite, cette petite collabo balance direct l'adresse de Mère Grand. Le loup arrive devant la porte et imite la voix de la petite fille. Et comme Odika n'existe pas, mémère est sourde, elle plonge.
Là. C'est votre fille, le petit chaperon rouge, dit le loup en contrefaisant sa voix.
Donc le loup, c'est Laurent Gérard ou Nicolas Canteloup, ça tombe bien. Vous avez entendu l'imitation pourrie du gars quand même. C'est quand même super mal imité, la voix de la petite fille. Bon,
oh
c'est pas pire qu'une autre imitation que j'ai entendue de Jacques Chirac.
Changement de décor. Le 5 mai 1891, New York est une nouvelle salle.
Oh là là, alors, je terminerai par un autre conte de fées. Thomas Soto, le prince de la news, va réveiller la France, mais avec son consentement, vu qu'il rejoint Télématin sur France 2. Or, c'est bien. C'est pas avec ça que vous allez faire la couverture de GQ non plus, hein, quand même. Faut me glamouriser un petit peu ça, Thomas. Peut-être faudrait faire une pub façon parfum, je sais pas.
Des news. Une banane. Service public. Morning by Thomas Soto. The new fragrance. Le nouveau parfum de France 2. Aux essences des selles de Roger Federer.
Moi, j'essaie de faire un truc pour rendre votre morning glam, quoi.
Ah, bah ouais, non, moi. Non, je veux pas dire qu'on va vous embaucher, ça va faire des histoires. Bon, merci beaucoup, Philippe Cavrivière.
Je vous en prie.
On vous retrouve samedi chez Ruquier sur France 2.
Oui, hein, spécial radio, les 100 ans de la radio.
Ah oui, il y aura Léa Salamé, il y aura plein de gens, il y aura Laurent Ruquier,
il y aura Julie Leclerc, notre copine.
Il y aura Julie, exactement.
Ça va être super. Il y aura des stars. Et moi.
Voilà. Oui. Bon, restez chez vous, regardez l'émission à la télé, ça sera mieux. Merci Philippe.
Salut.
Ça va pas fort pour Air France, dont les dettes se creusent. Il y a guère que dans la culture de l'actu désormais qu'on voit encore des avions voler avec légèreté. Julien Molcou arrive.
RTL Soir, Thomas Soto. Thomas Soto,
RTL Soir.
18h52, la culture de l'actu. On va s'intéresser à Air France KLM qui affiche une grosse perte, une perte nette de 1,5 milliard d'euros. Alors non, c'est pas Martial You qui est avec nous, c'est bien Julien Molcou. Parce que vous, du coup, vous avez décidé de soutenir l'aviation française et de nous parler de l'avion dans la culture.
T'as vu l'avion là-bas? Comment ça fait?
L'enfant et l'avion. Reggiani. Alors en avril 1890, Clément Ader, un ingénieur français, dépose un brevet relatif à un appareil ailé pour la navigation aérienne dénommé avion. Voilà, il vient d'inventer le mot avion à partir du latin avis qui signifie l'oiseau. En octobre de la même année, Ader parvient à faire décoller Éole, son fameux avion, qui s'élève à 20 cm au-dessus du sol sur une distance de 50 mètres. Un petit vol pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Aurait sûrement aimé déclarer Clément Ader, mais il n'a pas eu le temps. Il fallait qu'il construise Éole 2, puis Éole 3, et qu'il ouvre la voie à Louis Blériot, à Roland Garros, qui n'était pas tennisman, mais bien pilote.
Absolument.
Et puis bien sûr à Charles Lindbergh.
Je me demande parfois si elle nous prend pas pour des débiles.
Je fais des petits rappels. Et puis à Charles Lindbergh, le fou volant qui emporta tout sur son passage avec sa traversée de l'Atlantique en solitaire et sans escale en
1927.
Vous savez lire. Robert Charlebois arrive en France avec sa chanson Lindbergh en 69. Et en 69, des raisons qui nous poussent à regarder vers le ciel, on en a plein. D'abord, on marche sur la Lune, enfin, Neil Armstrong et Buzz Aldrin surtout. Mmh. Et puis 69, c'est aussi l'année du premier vol du Concorde, l'avion de ligne supersonique sur lequel Jean-Jacques Goldman n'a rien écrit. En revanche, Michel Sardou, si.
Le soleil, la nuit, tout concorde.
Ça alors, je connais pas celle-là.
New York et Paris.
Vous connaissez Peggy?
Non, pas du tout. On est moins calé hein, sur Michel Sardou. Ah oui.
Ben, c'est là vraiment pas. Bon, parlez-nous de l'avion au cinéma.
Bon, en gros, il y a trois types de films. Le premier, ce sont les films qui racontent une histoire vraie, parfois tragique, parfois magique.
On a subi une perte de deux réacteurs à 2800 pieds et un amérissage immédiat avec 155 âmes à bord.
Ça, vous le mettez dans le tragique ou magique ?
Personne dans le magique.
N'a jamais été formé pour un problème de ce genre.
C'est Sully, réalisé par Clint Eastwood, bravo Peggy, qui raconte l'histoire vraie de Chelsea Sullenberg, qui a réussi à faire amerrir son avion sur le fleuve Hudson
oui, bien sûr.
En janvier 2009, sans qu'il y ait une seule victime. Pourtant, on va chercher des poux et héros, essayant de lui coller sur le dos une erreur de pilotage. Si vous n'avez pas vu le film, n'attendez plus. Deuxième catégorie de films qui parlent d'avion. J'ai dit n'en parlez plus, je vais dire non, n'attendez plus. N'attendez plus. Deuxième catégorie de films qui parlent d'avion, ma préf, celle-là.
Ghost Rider pour un passage pas rapide.
Oh le pitch.
Négatif Ghost Rider, il y a du monde dans la boucle.
Maverick, ça c'est pas une bonne idée. Tu m'excuseras Ghost, mais je veux lui friser les moustaches. À la
Oh là là, le lieutenant le plus sexy de l'histoire du cinéma, Pete Mitchell.
Qu'est-ce qu'il a de plus que nous les mecs?
Je vous ferai une liste,
oui,
et ça va être
d'accord, ok.
Pete Mitchell alias Maverick, pilote mieux que personne depuis 86 les avions de chasse F-14. Et normalement, si tout va bien, on devrait retrouver Tom Cruise et ses acrobaties très bientôt dans Top Gun Maverick. 30 ans plus tard, oh, je suis sûr qu'il ne bat pas
un coup de pelle quand même, non?
Je suis pas sûr, moi. Ne soyez pas comme non. ça.
Mais bon, c'est la jalousie qui me fait parler.
Je me crains. Bon, les troisième catégorie de films qui parlent d'avion, ce sont bien sûr les comédies.
Bienvenue à bord du vol 1275 à destination de Paris. Je suis pas bien, un oubli.
Alors, je vois pas ce qu'on aurait pu oublier.
Petit Kevin McAllister a bien été oublié par ses parents. Et le pire, c'est que ça va se reproduire avec Maman, j'ai raté l'avion 2.
Bon, et pour finir, quelques avions dans la chanson.
Alors, si vous parvenez à trouver plus beau que cette chanson de Charlie Couture, je vous emmène en voyage.
Comme un avion sans air.
Ouf, je préfère Lindbergh. J'ai eu chaud.
J'ai chanté toute la nuit.
Mais savez qu'elle est très belle.
J'ai chanté pour faire.
Bon, bah alors je peux vous proposer autre chose. J'ai aussi Michel Polnareff qui chante l'histoire d'un homme qui prend l'avion et qui regarde la Terre d'en haut.
Holidays, oh, holidays. C'est l'avion qui descend du ciel.
Bon, et puis évidemment, Peggy, je suis désolée. Hein. Vous pouvez pas y couper, c'est pas vraiment le sujet, mais pff, bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi.
L'Allemagne.
Et ben on va avoir une petite météo. Allez, plus fort.
On peut tout raconter sur l'avion. Si on termine par Goldman, le reste
tout
est
bien,
tout oublié.
Exactement.
Mais surtout, le reste est oublié.
Pas ni rébellion. Règle du jeu fixée.
Mais les dés sont pipés. Fer et glace.
J'y vais, hein.
Il est réglé, c'était feu. Et comment va être le printemps, Peggy?
Je sais pas.